Je vous signale que ce ménage va pas mal du tout. Bon, ils ont eu des difficultés comme tout le monde, mais je crois que c'est fait vraiment un très très beau ménage actuellement. Mais Colette a 20, 21 ans, elle sortait de l'école d'infirmière. Lui en avait 22, sortait d'une école d'ingénieur. Elle avait déjà découvert cette béance du cœur humain que son cher petit mari ne pourrait jamais combler son cœur immense. Que le cœur de l'homme, que le cœur de la femme est une vasque qui ne peut être comblée que par Dieu. Et il y a de graves mésententes conjugales qui sont dues au fait qu'on accepte qu'on n'a pas encore découvert cela. Et messieurs, vous jouez pleinement votre rôle de mari chrétien lorsque vous donnez à votre femme la nostalgie d'un amour encore plus grand. Dire que tu m'aimes tant, chérie, mais que le bon Dieu m'admire encore plus. Car en ce moment, et ce n'est pas parce que vous êtes dans une salle d'Avignon, dans une salle pontificale, hein, en ce moment, chères mesdames, le bon Dieu, le Seigneur, vous admire encore plus que votre mari qui est là tout près et qui admire sa belle petite femme. Hein. Comme un mari tire joie de son épouse, ainsi ton Dieu prendra plaisir en toi. Et réciproquement, l'admiration que votre femme a pour vous, chers messieurs, doit vous donner la nostalgie. Et c'est au cœur de votre sacrement de mariage, d'un amour encore plus grand, celle de Dieu lui-même. Comme je souhaite que demain, en allant à votre travail, ou en restant chez vous parce que vous êtes pré-retraité ou retraité, comme je souhaite que vous pensiez à cette extraordinaire admiration chantée par le cantique des cantiques. Le bon Dieu a du plaisir lorsqu'il vous voit travailler, lorsqu'il vous voit faire ce que vous avez à faire. Dieu nous admire. Et c'est au cœur du sacrement de mariage. L'admiration que vous avez les uns pour les autres est une icône vivante de l'admiration que le Père et le Fils ont l'un pour l'autre dans le Saint Trinitaire. Et cette admiration réciproque, c'est le Saint-Esprit. Quand vous dites à votre conjoint, mon chéri, mon trésor, vous participez intimement à cette admiration mutuelle du Père et du Fils, car en Dieu, le murmure d'amour, le cantique d'amour, la déclaration d'amour, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Et sans le savoir, sans toujours y penser, vous participez très réellement à cette aspiration d'amour qu'est le Saint-Esprit. Je rêve évidemment, hein, j'ai été longtemps dans l'enseignement d'un collège où tous les enseignants seraient tellement chrétiens qu'ils y croiraient à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, chérie? Bah, j'ai corrigé des devoirs d'anglais. J'ai fait cours. Et qu'est-ce que tu as encore fait? Bah, si tu veux le savoir, j'ai fait plaisir à Dieu. Et si par-dessus marché tous les élèves y croyaient, ce serait presque le paradis sur terre. Qu'est-ce que tu as fait, fiston? J'ai participé à un cours de physique. Le professeur, il a rendu les bulletins. J'ai eu une bulle en mathématiques. Et qu'est-ce que tu as encore fait? Bah, maman, j'ai fait plaisir à Dieu. Nous faisons plaisir à Dieu. Et quand je vois des époux s'aimer, vous voyez, j'ai devant moi une image vivante, un sacrement de cette admiration réciproque de Dieu. N'ayez pas peur, de temps en temps, dans votre DSA, de vous dire l'un à l'autre cette nostalgie que vous avez. Il ne faut pas dire évidemment tous les jours à votre mari, tu sais, c'était pas le bon Dieu. Non, bien sûr. Bon. Pas la peine, non. Hein? D'ailleurs, il n'y a pas de danger que vous lui disiez cela. Vous avez trop de bon sens. Hein? Mais de temps en temps, dans le DSA, dire que le bon Dieu nous aime encore plus, qu'il nous admire encore plus. Incroyable, mais vrai. Alors, il ne s'agit pas de le sentir, hein? Il s'agit d'y croire sur la parole de Dieu. On ne sent pas l'admiration. Quand je me regarde dans une glace, je n'ai pas l'impression que le bon Dieu m'admire, mais vraiment pas. Mais j'y crois sur sa parole. De même que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la valeur de la croix ne supprime pas la croix. Ce n'est pas parce que je crois à la valeur de ma souffrance, à la valeur rédemptrice de mon épreuve, que l'épreuve fait moins sentir son épine. Non. Parce que j'entends cela aussi, mon père, si j'étais davantage chrétien, je souffrirais moins parce que je croirais à la valeur rédemptrice de ma souffrance. Mais non, madame, la souffrance, ça fait souffrir. Et on a beau être chrétien, on a beau croire que ça sauve le monde, ça fait souffrir. Jésus, sur la croix, savait qu'il versait son sang pour la rémission des péchés. Il l'avait dit quelques heures plus tôt à la scène. Il savait que son sacrifice était magnifiquement sauveur, qu'il était en train de réaliser sa vocation, sa mission de sauveur. ça ne l'a pas empêché de souffrir énormément. Hein? Et c'est pour cela, certains le savent que j'aime beaucoup ce crucifix vénéré par les moines de Lérins, dans le transept gauche. Si vous allez là-bas, à l'île Saint-Honorat de Lérins, c'est pas loin de chez vous. Hein? Il y a un magnifique crucifix souriant du XIIe siècle où l'artiste a osé représenter le Christ à la fois souffrant et heureux. Car, comme le disait Saint Bernard, dans ce même XIIe siècle, sur la croix, le Christ était à la fois très douloureux et très heureux. Il était en train de sauver le monde. Et il se savait le Fils bien-aimé du Père. C'est d'ailleurs très curieux que ce soit à Gethsémani, au moment où le Christ souffre le plus, que nous l'entendons dire à son Père, « Abba, papa chéri. » Je termine en vous donnant quelques conseils sur la façon de parler des membres de votre famille qui vous énervent. Est-ce qu'il faut prendre la résolution de ne plus jamais en parler? Non, je ne crois pas. Mais il faudrait en parler toujours comme vous parlez des défauts de vos enfants. Par exemple, vos neveux et nièces. Non. Il faudrait toujours en parler quand vous voyez leurs défauts, comme vous parlez des défauts de vos enfants, c'est-à-dire en souffrant. Car vous savez très bien la tentation, hein. Nos neveux et nièces, nos enfants, ils sont paresseux, mais c'est pas comme les neveux, hein. Ils sont encore bien plus paresseux. Parce que parfois, on se rassure sur les défauts de ses enfants en les comparant à ceux des neveux et nièces. N'est-il pas vrai, hein? Parce que comme disait l'autre, quand je me regarde, je me méprise un peu, mais quand je me compare, je me rassure. Non. Et puis, en parler toujours avec l'action de grâce dans le cœur, d'où la vérité du principe du conseil de Saint Paul. Réjouissez-vous toujours, soyez toujours dans l'action de grâce. C'est-à-dire que vous devriez toujours chanter le Magnificat, quoi, ou chanter le psaume 150. Alors à ce moment-là, quand on pense vraiment aux merveilles de Dieu et aux merveilles que Dieu est capable de réaliser chez les autres, le mépris devient psychologiquement impossible. Ça se voit même sur le visage. Quand vous méprisez quelqu'un, vous faites la moue. Les muscles de votre visage expriment que vous rejetez cette personne. Lorsque vous souriez en chantant le Magnificat, vous avez un visage tout à fait différent. Vous accueillez Dieu, vous accueillez l'autre. On ne peut pas à la fois faire « hein ?» C'est pas possible.